Vous, Yves Boisset, vous faites ce qu'on appelle du cinéma d'homme.
Moi, j'ai l'impression que la misogynie du cinéma en général et du cinéma en particulier, du cinéma français en particulier, qui est réelle, c'est vrai, c'est pas une légende, elle ressort d'un problème beaucoup plus grave, qui est le fait que le cinéma français ne donne en aucune manière un reflet exact de la société française à l'heure actuelle et des préoccupations de notre temps. Et c'est-à-dire que si, par exemple, on imagine que dans 2 ou 3 siècles, des archéologues se penchaient sur la société française en 1975 uniquement avec comme seule base de documents des films français, ils seraient absolument étonnés, parce qu'ils auraient l'impression que la France était en 1975 un pays peuplé exclusivement de flics, de bandits, de mannequins, de cover girls, en ce qui concerne les femmes, de prostituées, de quelques journalistes, et pour le reste, éventuellement de milliardaires ou de rigolos qui passent leur temps à s'envoyer des tartes à la crème. Et quel reflet donne de la société à l'heure actuelle le cinéma français? C'est celui-là.
Bon, et quelle est la place de la femme dans ce reflet?
La femme sert uniquement d'objet, un petit peu, si vous voulez, le rôle qu'avait le trésor dans les films d'aventure il y a une vingtaine ou une trentaine d'années.
À chaque fois, qu'est-ce qu'on vous propose? Qu'est-ce que vous faites?
Un peu toujours la même chose. Oui. Je fais toujours partie, je suis vraiment un élément du peuple. C'est-à-dire que je suis toujours une secrétaire ou une employée d'une postière, ou je suis toujours ça. Parce que, on m'a cantonné dans ce rôle.
Vous avez l'impression que c'est simplement parce qu'on vous a cantonné dans un rôle qui est toujours la victime?
Non, moi, je suis une victime qui me défend. Oui, qui lutte jusqu'au bout. Qui lutte jusqu'au bout. Qui me dit pas passive, pas du tout. Non. C'est la chef de M. Seguin qui se bat toute la nuit et qui, à la fin de la nuit, mange le loup. J'ai quand même cette chance.
Fragrant. Délit. D'évasion. Flagrant. Défi. D'évolution. Podcast Fringant. Bouquet final. En clôture de la saison 1. Politiquement correct. James Finn Garner. Conte d'autrefois pour lecteurs d'aujourd'hui. Le petit chaperon rouge. Il était une fois une jeune personne appelée le petit chaperon rouge qui vivait avec sa mère à la lisière d'un grand bois. Un jour, sa mère lui demanda d'aller porter à sa grand-mère une corbeille de fruits frais et de l'eau minérale. Encore une tâche réservée aux femmes, direz-vous. Eh bien non, c'était tout simplement une démarche généreuse. Pourquoi le petit chaperon rouge n'aurait-elle pas eu, elle aussi, le sens de la communauté? Qui plus est, sa grand-mère, loin d'être malade ou gâteuse, était une adulte rayonnante de maturité et parfaitement capable de prendre soin d'elle-même. Le petit chaperon rouge partit donc à travers bois avec sa corbeille. Beaucoup de gens s'imaginaient que la forêt était un endroit maléfique et dangereux, et ne s'y aventurait jamais. Dieu merci, la jeune fille en fleurs qu'était le petit chaperon rouge assumait déjà très bien sa sexualité naissante, et jamais une imagerie freudienne aussi évidente ne l'aurait intimidée. En chemin, le petit chaperon rouge fut accosté par un loup, qui lui demanda ce qu'il y avait dans sa corbeille. « Une collation diététique pour ma grand-mère, » répondit-elle. Mais ne vous méprenez pas, c'est une adulte nullement entamée par les années, tout à fait capable de se débrouiller seule. Fit le loup. Vous savez, ma chère, qu'une petite fille comme vous ne devrait pas se promener toute seule dans ces bois. Voilà tout ce qu'il trouva à dire, et le petit chaperon rouge lui fit aussitôt remarquer combien ce genre de réflexion sexiste était blessant à l'extrême. Mais vous avez la partie belle, lui dit-elle. Grâce à votre statut traditionnel d'exclu, on ne peut rien vous reprocher. Stressé comme vous l'êtes par votre condition, il n'est pas étonnant que vous ayez été amené à forger votre propre, et absolument valable du reste, vision du monde. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois poursuivre ma route. Le petit chaperon rouge emprunta le chemin principal. Mais le loup, forcé de vivre en marge de la société, s'était libéré depuis belle lurette de toute adhésion servile à un système de pensée linéaire, typique de l'Ouest, et connaissait un raccourci qui menait à la maison de Mergrand. Une fois arrivé, il mangea Mergrand. Conduite on ne peut plus orthodoxe pour un carnivore tel que lui. Puis, très au-dessus, comme il se doit, des principes rigides et abrutissants qui conditionnent les hommes à s'habiller en hommes et les femmes en femmes, il mit la chemise et le bonnet de nuit de Mergrand et se glissa dans le lit. Le petit chaperon rouge entra dans la maisonnette et dit « Mergrand, je vous ai apporté une collation 100% naturelle, sans corps gras ni sodium, pour rendre hommage à la matriarche avisée et attentive que vous êtes. « Approche, mon enfant !» murmura le loup depuis le lit, « que je puisse te voir. » « Oh !» s'écria le petit chaperon rouge. « J'oubliais que vous êtes aussi optiquement contrarié qu'une taupe. Mergrand, que vous avez de grands yeux. Ils ont beaucoup vu et beaucoup pardonné, mon enfant. Mergrand, que vous avez un grand nez. Enfin, si on veut, car dans son genre, il est très séduisant. Il a beaucoup flairé et beaucoup pardonné, mon enfant. Mergrand, que vous avez de grandes dents. Écoute, soupira le loup. Je me contente d'être qui je suis et ce que je suis. Un point, c'est tout. Et il bondit du lit, puis saisit le petit chaperon rouge entre ses griffes, dans l'intention de la dévorer. Le petit chaperon rouge cria. Ce qui n'est pas une raison pour conclure hâtivement que le penchant manifeste du loup au travestissement les farouche, non. Elle cria parce qu'en fait le loup envahissait délibérément son espace personnel. Ces cris furent entendus par une personne exerçant les fonctions de bûcheron ou de technicien du ravitaillement en combustible, ainsi qu'il préférait être appelé. Entré en trompe dans la maisonnette, il vit la mêlée et tenta d'intervenir. Mais au moment où il leva sa hache, le petit chaperon rouge et le loup s'arrêtèrent net. « Et qu'est-ce que vous croyez être exactement en train de faire ?» demanda le petit chaperon rouge. La personne exerçant les fonctions de bûcheron cligna des yeux et essaya de répondre, mais fut incapable de proférer le moindre mot. « Surgir ici, comme un homme des cavernes !» s'exclama-t-elle. « Mais allez-y, laissez donc à votre arme le soin de penser à votre place. Sexiste et spéciste, comment osez-vous présumer qu'une femme et un loup sont incapables de résoudre leurs problèmes sans l'aide d'un homme ?» Lorsqu'elle entendit les propos exaltés du petit chaperon rouge, Mergrand sortit promptement de la gueule du loup. Elle employa la hache du coupeur de bois et lui trancha la tête. Une épreuve pareille en sans doute, ça crée des liens. Et le petit chaperon rouge, Mergrand et le loup, comprirent d'emblée qu'ils avaient pas mal d'objectifs en commun. Alors sans coup férir, ils fondèrent un nouveau genre de ménage à trois, fondé sur un respect mutuel et une vraie coopération. Et ensemble, ils vécurent dans la félicité le reste de leurs jours.
Dive into the waves below. Who tends the orchards? Who fixes up the gables? Emotional torture from the head of your high table. Who fetches the water from the rocky mountain spring? And walk back down again to feel your words in a sharp sting. And I'm getting fucking tired. Capillaries in my eyes are bursting. If our love died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior, sure made me do a whole lot of labor. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence haunts our bedchamber. You made me do too much labor. Thank you. and stab me with your fork. I know you're a smart man, I know you're a smart man, and weaponize the false incompetence. It's dominance under a guy. If we had a daughter, I'd watch and could not save her. The emotional torture from the head of your high table. She'd do what you taught her. She'd meet the same cruel fate. So now I've got to run so I can undo this mistake. At least I've got to try. Look up in the leaves and my eyes are bursting. If our love died, would that be the worst thing? For somebody I thought was my savior. Be a bad thing, and the silence wants a bedchamber. You make me do too much labor. All day, every day, therapist, mother, maid, nymph, then a virgin, nurse, then a servant, just an appendage, lift to attend him so that he never lifts a finger. 24/7 baby machine, so he can live out his picket fence dreams. It's not an act of love if you make her.